EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Parlant de maturité, cette semaine, on est vraiment en train de mûrir, de la bonne manière, puisqu'on entend parler d'un sujet pas le moindre. On parle de résoudre les conflits. Comment les chrétiens résout-ils des conflits autour de lui? Je n'ai pas fait le 360 degrés de la résolution des conflits, mais je pose des bases importantes qui peuvent nous aider là-dehors, en tant que disciples de Jésus, à trouver des solutions bibliques dans les conflits dans lesquels on puisse se retrouver. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des conflits qui sont à la maison. Le conflit des couples et le conflit avec les enfants. Établir un climat simple et biblique est toujours très suivi et simplifié dans la résolution des conflits. Vous regardez de fois certaines familles très tendues, mais pourtant chrétiennes. Certains couples qui passent des heures, des mois même, sous des formes de tensions, incapables de résoudre leurs conflits. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la Bible pour résoudre des conflits quand il y en a dans le couple, quand il y en a avec les enfants, mais juste quand on est à la maison? Dans la famille, comment on peut résoudre des couples? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Je voudrais ici ensemble que nous puissions apprendre des réflexes, que ça devienne un rythme de vie, en couple et en famille. Les conjoints en chambre en train de se parler, ou au salon, ou s'invitant dans un resto, ou conduisant dans la voiture, aient des réflexes très simples pour gérer les conflits. Mais en tant que parent, qu'on soit parent seul ou qu'on soit les deux parents en train d'élever les enfants, qu'on ait des réflexes simples, un processus bien clarifié, de sorte qu'on sait, les enfants le savent, les époux le savent, quand il y a conflit, on passe par là, 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 à la résolution du problème. Parce que cette alliance de couple, mari et femme, cette alliance de famille, parents et enfants, ça demande de l'écoute, ça demande du pardon, de la vérité. Ça demande qu'on puisse utiliser à la fois de la fermeté sur les enfants, mais aussi de la douceur. Être capable de les éduquer avec amour, tout en étant suffisamment ferme pour les orienter. Cette même réalité vaut aussi pour le couple. Autant on aime son conjoint ou sa conjointe, autant on aimerait l'aider aussi à devenir meilleur. Il est impossible de vivre sous un même toit, autant d'années. Suffisamment pour être un couple et élever les enfants sans qu'il y ait des conflits. Ces conflits qui sont censés, à chaque résolution, améliorer les conditions de la famille, dévoiler les cœurs de chacun et permettre aux uns et aux autres de se dire « j'ai bien fait de l'épouser, j'ai bien fait de... ces enfants sont une bénédiction ». Ces conflits ont ça comme objectif. Mais ces mêmes conflits deviennent de fois de sources de suspicion où les gens commencent à se réserver où des personnalités sont cassées et brisées. Dans une famille, on doit apprendre à résoudre les problèmes sans casser les relations. Que peut-on faire? Qu'est-ce que la Bible nous donne comme orientation, tant pour le couple que pour les enfants? Alors, un, couple, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? S'écouter en s'honorant mutuellement. Dans un couple, si on veut résoudre très bien des conflits, on doit apprendre à s'écouter, écouter l'un et l'autre, tout en honorant l'un et l'autre. Vous verrez que chaque fois que je parle de cette affaire de résolution de conflits, je reviens chaque fois sur le verbe écouter et le verbe honorer. On doit s'écouter et s'honorer mutuellement. Un couple qui se veut saint, qui se veut biblique, chrétien, doit mettre en avant le fait de laisser finir l'autre quand il parle, d'écouter attentivement, de donner à l'autre, de lui donner un résumé de ses dires. Voilà, je t'ai entendu, je pense que tu dis ceci, cela. Voilà comment moi je le comprends. Est-ce que c'est ça ton intention? Mais pas seulement d'écouter, mais d'honorer, traiter avec honneur, mettre en avant, démontrer un respect à la personne. Quelle est raison, qu'elle soit dans le tort, il est important d'honorer son conjoint ou sa conjointe. Éphésiens chapitre 5, verset 21 dit « Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. » J'aime bien ça. Vous soumettant les uns les autres dans la crainte du Christ. La Bible parle de la soumission des uns aux autres. Si on apprend des gens à l'église entre frères et sœurs, s'apprendre à se soumettre. C'est vrai que on aime beaucoup plus le texte de « Femmes, soyez soumis à vos maris ». Mais il y a aussi cette relation fraternelle, chrétienne, qui ne fait pas que la femme seulement est la seule qui est soumise. Il s'agit de se soumettre aux uns aux autres. Ça ne veut pas dire que les rôles ont changé. Ça veut juste dire que les honneurs sont partagés. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Marie, de même, vivez avec sagesse auprès de vos femmes, comme avec un être plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'ainsi vos prières ne soient point entravées. Paul, Pierre donne une instruction ici au mari. Il dit, considérez que vous êtes avec des êtres faibles. Par faiblesse ici, il ne veut pas dire qu'il manque de force, manque d'initiative. Ça veut juste dire par la nature de la manière dont Dieu a créé les deux, il fait que l'un des êtres dépend de l'autre. Il dit que si on ne les traite pas très bien, il dit honorez-le. Comme avec un être plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce et la vie. Il dit, les hommes, quand vous avez vos femmes, sachez que elles aussi, Jésus est mort pour elles. Elles aussi, elles obtiennent la grâce de Dieu. Elles aussi, elles ont leur droit de l'honneur. Dire s'honorer dans la famille, s'écouter, c'est facile de foi. Surtout dans certaines cultures. C'est comme si je disais, femme, écoutez vos maris. C'est comme si je disais, femme, honorez vos maris. Non, la Bible est en train de dire, ça doit aller dans les deux sens. Les maris doivent être écoutés autant que les femmes doivent l'être. Les hommes doivent être honorés autant que les femmes doivent l'être. Honneur et écoute mutuelle, ça c'est le secret dans la résolution de conflits. Ne viens pas lancer un conflit comme ça à ta femme pendant qu'elle est assise avec ses amis. Mais toi, je t'avais déjà dit, c'est déjà irrespectueux de parler comme ça. Tu ne parlerais même pas comme ça à une serveuse dans un restaurant. C'est pas qu'elle soit moins digne d'honneur. Je vais juste te dire que même une personne qui n'est pas en une si grande relation de proximité, tu ne parlerais comme ça pas à une personne. Mais cette personne qui appelle, tu appelles chair de ta chair, os de tes os. Donc c'est toi-même. Tu te traiterais jamais comme ça, mais tu oses traiter celle que tu appelles os de tes os. Tu oses la traiter comme ça. Mais en fait, en réalité, tu te traites comme ça. Tu te fais manquer à toi-même de respect. Et ça arrivera un jour. Honneur et écoute. Laissez le temps de parler. Des fois, certaines personnes se sentent heureuses, pas heureuses, c'est pas les termes. Elles se sentent comme si elles avaient raison. Parce qu'elles n'ont fait que parler, elles. Elles ont parlé de bout en bout, l'autre parce qu'elle ne dit rien, donc elle a tort. Avec le peu de temps que j'ai fait dans la résolution de conflits de couple, j'ai vu, soit la femme, soit l'homme, l'un de deux conjoints qui parle le plus, et celui qui s'était, on a l'impression que il n'a pas raison, et il manque de mots, il ne sait pas comment argumenter. Or, c'est celle qui était en train de parler, débriller, d'écrier. C'est elle qui tentait de couvrir quelque chose. Alors, il est important de laisser parler les autres. Écouter. Attendre qu'ils finissent la phrase. En couple, lorsque tout le monde ne sait pas à parler simultanément, c'est là qu'on sait que vous avez un problème. Moi, je vais... C'est là que nous, on sait. Mais si le premier a parlé, le deuxième a parlé, on ne sait pas. On se dit que vous êtes dans une conversation, on ne sait même pas. Mais quand vous mettez à parler simultanément, c'est là qu'on nous... qui ne sont même pas dans la chambre, nous savons qu'il y a un problème. Donc, en ce qui concerne les conflits de famille et de couple, premier conseil, apprenez à vous écouter et à vous honorer. Ça signifie ne touchez pas à l'un à l'autre, ne déchirez pas les habits, ne cognez pas, ne parlez pas mal, n'insultez pas les parents, n'humiliez pas en public, ni en privé d'ailleurs. Deuxième chose, gérer la colère sans laisser pourrir. Que ce soit pour le cas de couple ou même pour les cas des enfants lorsqu'il y a des conflits à la maison, parents ou enfants, apprenez à gérer la colère sans laisser pourrir. Qu'est-ce que je veux dire? Gérer la colère, ça veut dire n'est pas réagir impulsivement. Une chose s'est faite, en réponse à ce que j'ai vu, je mets mes états d'âme en expression. On doit apprendre à se contrôler. Se contrôler ne signifie pas attendre jusqu'à ce que le bon moment soit passé. C'est ce que j'appelle laisser pourrir ici. C'est-à-dire, ce qui devait être dit, si ce n'est jamais dit, le bon moment va passer. Ce qui devait être dit n'est pas censé être dit avec des émotions si chargées que ça devient incontrôlable. Et ça ne doit pas non plus rester sous les tiroirs jusqu'à ce que le temps passe. Apprenez à vous contrôler au moment d'exprimer, surtout en particulier la colère, ou un désagrément, ou un discorde, ou une idée contraire. Apprenez à contrôler vos émotions en ce moment-là. Mais ne vous dites pas, je me contrôle, donc j'oublie. Vous attendez 6 mois, 2 ans, 4 ans. Il y a des couples qui rappellent une chose il y a 10 ans. Ils disent, moi, tu te souviens qu'on habitait encore de l'autre côté en bas. Tu m'avais dit un jour. Moi, je me disais toujours un jour. Waouh, quelle rancune. Ne gardez pas votre colère autant de temps. Ça devient de la rancune. Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Proverbe chapitre 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Paul dit aux Éphésiens, tu es fâché, ne va pas dormir avec cette colère-là comme ça, là, ça va donner accès au diable. Et l'homme de Proverbe dit, tu parles des paroles douces, la fureur se calme. Mes amis, on peut être dans des conditions très difficiles. Un parent, un père, un enfant, surtout les enfants ados, des fois, même des fois, ils sont plus petits et ils sont problématiques. Mais quand il y a une situation de conflit à la maison, ne vous laissez pas conduire par des émotions de colère. Oh, la colère, ça fait des choses. On peut frapper par colère et faire un mal irréparable. Parce que juste on était trop fâchés. Mais ça ne signifie pas que parce qu'on contrôle sa colère, on ne doit jamais manifester son désaccord. Ne dépassez pas ce temps. Quelquefois, j'ai des situations avec mes enfants où j'ai été obligé de voir ce qui s'est fait. Rien que pour que je ne réagisse pas fort, je me déplace de là, je vais ailleurs, j'essaie de calmer ma colère, je tourne. Je dis ok, je vais pas l'exprimer comme ça. Non, j'ai grandi, je ne peux pas faire ça comme ça. Et puis je reviens et je trouve le meilleur moment, je peux l'avoir à côté. Et je peux lui parler. Et je suis ferme. Et j'exprime ma colère. Mais sans que les émotions prennent les dessus. Et que j'en vienne à quelque chose qui pourrait faire du mal aux enfants. Exprimez-vous. Ça ne doit pas pourrir. Mais ne laissez pas les émotions prendre les dessus. Surtout en particulier lorsqu'il s'agit de manifester votre désaccord. Et que ça vienne avec une impression de colère. Gérez la colère sans laisser pourrir. Que ce soit avec votre mari, que ce soit avec votre femme. Souvent, j'entends ce langage, l'un des conjoints dire, j'ai attendu. Je me disais pas maintenant. Un jour, je lui dirai ça. Waouh! Vous faites du mal à votre cœur. Ça veut pas non plus dire, dès qu'il va arriver ici, je vais même pas le servir, faut qu'on en parle d'abord. On va rien faire, je vais d'abord commencer avec ça. Non. Vous pouvez gérer votre colère. Vous savez, quand quelqu'un sait contrôler sa colère, on le craint davantage. La Bible dit que celui qui sait avoir la maîtrise de soi est plus que celui qui gagne de ville. Ça veut dire qu'il a une force tranquille plus élevée que celui qui manifeste sa voracité et sa fureur. Quand vous savez vous contrôler avec votre colère, ça montre à la personne qu'il y a eu plus et qu'il doit respecter ce que vous êtes en train de dire. Troisièmement, pardon plus réparation concrète. Quand on veut résoudre des conflits dans la famille et dans le couple, il ne suffit pas de dire pardon, il faut aussi réparer concrètement. J'ai une fois eu l'occasion de parler ici sur Teach le langage d'amour et le langage de pardon, les propositions et les recherches de Gary Chapman. Il propose 5 façons de demander ou d'exprimer le pardon. Il y a de ceux qui considèrent qu'il suffit de me dire de demander pardon et il va octroyer pardon en parlant. Il y a d'autres qui considèrent qu'il faut y ajouter l'élément du regret qu'on ne va plus revenir. Il y a d'autres qui considèrent que tout ce que tu dis ne signifie rien si tu ne fixes pas le problème à la base. Mais dans un conflit, il faut apprendre à mettre le pardon en avant et la réparation. Lorsqu'il y a la situation demande réparation, il ne suffit pas d'aller chacun dire pardon, pardon, et on va vivre en se disant comme si de rien n'était. Parce que la situation va revenir. On vit ensemble. On est là tout le jour. On vit dans la même maison, les parents et les enfants. On vit là. Même si on ne vit pas dans la même maison, on vit dans le même climat familial. On est en contact. Cette situation va revenir. Il faudrait réparer. Il faudrait corriger lorsque l'occasion se présente. Et si ça doit se corriger maintenant, ça doit être corrigé. Vous ne pouvez pas résoudre efficacement des problèmes en couple et en famille si, à côté du pardon, vous n'associez pas la réparation concrète. Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. J'aime ça. Paul leur dit, supportez-vous les uns les autres. Et si vous avez quoi que ce soit à vous plaindre, pardonnez-vous réciproquement. C'est drôle de voir que ce frère, cette sœur, est prête à pardonner quelqu'un d'autre qui n'est pas de ce couple. De pardonner sans problème. Oh non, écoute, c'est même pas grave, mon frère. La Bible nous dit de pardonner, hein. Mais quand c'est sa propre femme, quand c'est son propre mari, ce n'est plus son frère, ce n'est plus sa sœur dans le Seigneur. Il ne veut plus pardonner. Tu me demandes, moi, de te pardonner. Il ne fallait pas faire ça. Il ne fallait déjà pas faire ça. Maintenant, c'est fait, tu me demandes de pardonner. C'est à ça que ça sert le pardon. Mais celui qui a été pardonné doit apprendre à faire une réparation concrète. Corriger. Il ne suffit pas qu'on vous dise, oui, vous êtes pardonné. Corrigez s'il y a lieu de corriger. Si opportunité, si l'affaire revient la prochaine fois, qu'on sente que vous avez bien compris la leçon. Matthieu chapitre 5, verset 23-24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Ouh, quel enseignement fort! Jésus propose que si on est en conflit, on ne donne même pas l'offrande, on laisse d'abord. Il n'a même pas dit ramène l'offrande, il laisse ton offrande. Va corriger d'abord le problème avec ton frère et reviens fixer ce problème-là. Je vois comment les chrétiens, nous sommes passés quand même experts en matière de cohabiter avec nos conflits. C'est-à-dire qu'on a de sérieux problèmes durs, mais on ne résout pas ces problèmes-là. Mais on continue à vivre notre vie chrétienne normale. Résoudre les problèmes ne veut pas dire que tout le monde aura raison ou que tout le monde sera d'accord et qu'il y aura une paix totale partout. Non, en parler, mettre ça à table et aller vers des solutions nécessaires. Et s'il y a réparation, faire réparation. Réparer le tort là où il a été causé. Demander pardon à qui on doit demander pardon. Si c'est en public, c'est en public. Si c'est des personnes, des individus, s'il faut faire un communiqué contraire, s'il faut dire le contraire de ce qu'on a dit, s'il y a réparation possible, sans que ça devienne un moyen d'humiliation, mais s'il y a réparation possible, ajoutez la réparation. Vous avez posé un geste vis-à-vis de votre enfant qui l'a humilié en plus vis-à-vis de ses frères et de ses sœurs. Ne lui demandez pas seulement pardon. Aussi longtemps que cela dépend de vous, aussi longtemps que cela est sous votre responsabilité, parents, réparez. Vous venez de le déshonorer, vous venez de l'humilier devant ses frères. Il faut travailler à la restauration de son autorité. Le couple et la famille résout ces conflits quand on met en avant pardon et réparation. Quatrièmement, souvenez-vous, nous sommes en train de parler de quoi? Nous sommes en train de parler de comment on résout des conflits dans un contexte familial, n'est-ce pas? Dans le couple et dans la famille, les enfants. J'ai commencé par dire dès le début qu'au niveau du couple, il faut apprendre à s'écouter et à s'honorer. Écouter l'un l'autre et honorer l'un l'autre. J'ai aussi dit deuxièmement qu'il faut apprendre à gérer la colère sans toutefois faire pourrir la situation. Il ne faut pas parler sous émotion forte et il ne faut pas s'éteindre au point de manquer de parler ce qui devait être dit. Je dis ici troisièmement, alors, il faut associer pardon ainsi que réparation. Il faut pardonner et donner le pardon et saisir l'opportunité de corriger l'erreur. Quatrièmement, alors, parler à un enfant signifie fermeté douce. Et le mot biblique, là, c'est paideia. C'est-à-dire Parler à un enfant inclut ces deux vérités importantes. Il faut être à la fois ferme et doux. Et il y a dans la Bible un mot qui mélange les deux, qui dit une douce fermeté. C'est traduit des fois par discipline. On est à la fois ferme et doux. On peut dire non en riant. C'est un art que j'ai appris. On peut dire non en riant. On peut être ferme avec douceur. Les enfants ont besoin de fermeté, de douceur dans le processus de leur éducation. Quand on résout un conflit avec les enfants, ces deux éléments doivent venir ensemble. On est à la fin ferme, à la fois doux. Éphésiens chapitre 6, verset 4 dit « Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon la discipline et les avertissements du Seigneur. » Mais corrigez-les, c'est ça le terme. Corrigez-les en les instruisant selon la discipline. Corrigez-les, pas idéia, corrigez-les, éduquez-les. Soyez ferme et doux en même temps. Quand il y a un conflit avec un enfant, il ne faut pas seulement reconnaître les torts, demander pardon. Il faut user de cela comme une occasion d'apprentissage. Avec douceur, certes, mais aussi avec fermeté. Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant. Sois à la fois ferme et doux en lui montrant le chemin. C'est ça le chemin, mais c'est avec douceur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé. J'ai failli me noyer. Je ne savais pas encore nager, donc nous sommes allés avec les amis, on devait se laver, c'était comme ça à la rivière, on devait tenter de se laver. Hein. Mais je ne savais pas nager, donc du coup on jouait très bien, j'avais les pieds au sol, disons sous l'eau, j'étais debout, j'avais pied. Mais je ne me rendais pas compte que l'eau me bougeait. L'eau me bougeait. Et je bougeais petit à petit, et je me dégageais là, des amis, des collègues, et je ne me rendais pas compte. À un moment donné, je n'avais plus pied. C'était plus profond que ça. Je sentis que je partais. J'ai crié « Ah !» Je n'oublierai jamais ce que notre chef qui nous dirigeait a fait. Il m'a dit « Reviens ici !» Moi, j'ai crié que je ne sais pas nager. Lui disait « Viens, viens !» Moi, je dis « Mais justement, c'est venir que je n'avais pas à faire. » L'eau ne m'avait pas harcelé, n'était pas dure avec moi. C'était doux. Mais ça ne pouvait pas reculer. L'eau ne pouvait pas changer de direction. Ça allait dans une direction qui était à l'opposé de d'où moi je voulais venir. J'ai tout fait. Mais l'eau était fermement en train de couler dans une direction avec douceur. Ça ne m'a pas blessé. C'est comme ça l'éducation. C'est prendre une bonne et unique direction avec fermeté et douceur. Dans le processus de conflits qui ont souvent lieu entre les enfants et les parents, entre un parent ou un enfant, les enfants entre eux, c'est des occasions pédagogiques très, très spéciales. On y apprend beaucoup. Alors, il faut y mettre à la fois douceur et fermeté. Ne venez pas juste avec brutalité en criant. L'enfant peut n'avoir rien compris après que vous l'ayez puni, vous avez pris l'argent, vous n'avez plus rien donné. Il faudrait y mettre de la douceur, mais de la fermeté. Montrez-lui les principes de vie à travers ça. Mais ça ne signifie pas qu'en tant que parent, dans un conflit, il ne faut pas reconnaître ses torts. Ça fait partie de l'éducation qu'on donne aux enfants que de reconnaître ses torts. C'est important. Ça fait partie de ça. De s'arrêter un moment, je me souviens la fois où j'ai promis à mon fils qu'on devait faire une fête pour son anniversaire et ça, c'était l'occasion, l'endroit qu'on voulait n'était pas disponible. Et ça passait plus de 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ça commençait à faire une semaine. J'ai dit à ma femme, il faut qu'on lui présente nos excuses. Il faut juste qu'on le fasse asseoir, qu'on demande pardon. Apparemment, ça va être difficile à réaliser. On l'a fait asseoir, on lui a dit, écoute, Roland, on te demande pardon, on n'a pas pu faire ceci, on n'a pas pu faire cela. On risque de ne pas pouvoir le faire comme on l'a pensé. On est dans des conditions qui ne le permettent pas. On lui a montré des paramètres, on a demandé pardon. Il nous a dit, OK. C'est bon, parce que mes amis étaient en train de me demander, ils me disaient, mais c'est quand ton famille ton anniversaire, tes parents, finalement, ils feront jamais. Mes amis étaient en train de rire de moi que je leur ai parlé d'un anniversaire qui n'a jamais été fêté. On n'était même pas au courant que les amis lui disaient ça. On allait peut-être être en conflit avec cet enfant toute la vie. On aurait juste usé du droit des parents en disant « Ah, c'est un anniversaire, on avait promis, on ne l'a pas fait, il n'y a pas d'argent, on passe. » Il sera en train de passer tout ce temps essayant de braver ses collègues qui lui disent « Ah, tu vois, on n'a jamais fait l'anniversaire, on t'a fait marcher. » Mais là, ça a été clair pour lui. On lui a dit « Écoute, on ne pourra pas faire ça. On ne peut plus. Mais on fera ceci en compensation. » Et c'est parti. Quelquefois, parents, ça ne demande rien d'avoir tort. Dans tous les cas, vous avez tort. Il y a des gens dans la vie qui ne savent pas demander pardon parce qu'ils n'ont pas appris comment on demande pardon chez eux à la maison. Donc, le jour où ils sont à la position de leurs parents, ils ne demandent pas pardon parce que leurs parents ne demandaient jamais pardon. Cinquième et dernière chose. Souvenez-vous, on est en train d'apprendre comment résoudre des conflits dans la maison, des principes à la résolution de conflits dans la maison. Dernièrement, habitude familiale. Quelle est cette habitude familiale qu'il faut établir? Moi, j'aime appeler ça des habitudes sacrées. Prière plus débrief. Si vous voulez simplifier le processus pour résoudre le conflit dans la famille, il faut que ça soit connu que s'il y a un problème qui commence à devenir un conflit, tout le monde doit penser prière et doit penser débrief, c'est-à-dire conversation, on doit en parler. Faites de ça une habitude de votre famille. Votre famille doit avoir ses habitudes dans la résolution de conflits. Il faudrait que quand les enfants viennent vous voir, puissiez dire, est-ce que tu as parlé à ta sœur d'abord? Ah non, moi je ne vais même pas lui parler. Non, ça ce n'est pas la bonne façon de faire. Établissez les principes auxquels vous croyez dans la Bible. La conversation seule à seule. Si vous pouvez le résoudre, vous n'avez pas besoin de m'en parler. Ça, c'est ce que ma femme et moi encourage à nos enfants, que j'encourage même avec mes frères et sœurs quand on travaille dans l'œuvre de Dieu. Je répète, si vous pouvez le résoudre ensemble, vous n'avez pas besoin de m'en parler. Je ne suis pas obligé de savoir que vous avez eu un conflit. La Bible nous dit que si seul à seul, vous avez pu le fixer, ça va, plus besoin de moi. Que ce soit pour le couple, que ce soit avec les enfants, entre les enfants, priez, mettre ça d'abord devant la face de Dieu, être capable de résoudre seul, en parler ouvertement, débriefer sur le sujet. Josué 24, 15 dit, et si tu ne trouves pas bon de servir l'Éternel, choisis aujourd'hui si tu veux servir, soit les dieux qu'adorent tes pères au-delà du fleuve, soit le dieu des Amoréens dans les pays desquels tu habites, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous connaissons bien cette phrase. Josué s'est dit, peuple, j'ai tout tenté, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas clair dans votre engagement. Si vous ne voulez pas servir Dieu, choisissez lequel vous voulez choisir. Mais moi et ma famille, on va suivre Dieu. C'est quelqu'un qui est tellement sûr que les principes de suivre et de craindre Dieu sont installés dans son foyer. Ils sont tous d'Israël. Ils condamnent un mauvais comportement dans tout leur peuple. Mais il est garanti que les siens, ceux de sa maison, ne sont pas comme tout le monde. Waouh ! Ça, c'est ce qu'on appelle une famille. Vous êtes garanti que le monde est devenu bizarre avec l'Internet. Est-ce que vos propres enfants ne sont pas aussi devenus bizarres avec ça? Est-ce que vous avez déjà établi des principes de vie dans la résolution du conflit? Le jour où tu verras un de tes enfants quelque part sur Internet en train de faire tout un live dans la résolution de conflit, ce jour-là, tu comprendras que tu n'as pas établi non plus des principes. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Regardez, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. J'ai dit que l'habitude familiale, c'est la prière et le dialogue ou le débrief. Apprenez à prier quand il y a conflit, seul et ensemble. De fois, dans un culte familial, le conflit est résolu que pendant l'adoration, quand chacun se voit petit devant la face de Dieu. J'ai dit beaucoup de choses. Votre famille peut commencer quelque part. Votre couple peut commencer quelque part. Il y a au moins une chose qui peut être le point de départ pour décanter cette situation dans votre famille. Et je prie que le Seigneur vous exauce. On se voit demain. Dieu vous bénisse.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.